France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
De l'esclavage à la race, quand le monde est pensé en noir et blanc, l'esclavage est un phénomène ancien, antique même, qui se déploie dans de si nombreuses civilisations à l'intérieur de l'Afrique, dans le monde arabo-musulman, avec des déportations à travers l'océan Indien et bien sûr à travers l'océan Atlantique. Quel lien historique existe entre l'esclavage et la construction du racisme? Est-ce que, par exemple, les Européens étaient racistes au moment de réduire des gens en esclavage? Ou bien le racisme est-il né ou s'est-il transformé avec l'esclavage? La parole à l'abbé Grégoire.
Plaidons notre cause avec énergie. Et commençons par résoudre cette grande question. Sont-ils des hommes, les habitants noirs de l'Afrique, ou ne le sont-ils pas?
Le cours de l'histoire.
Sont-ce quelque espèce étrange qui, en raison de leur forme, tiennent une place entre l'homme et l'orang-outan? C'est pour l'homme que je plaide. C'est pour des hommes que quelques-uns de vos concitoyens, par fourberie et par violence, enlèvent dans quelques cantons de l'Afrique pour les jeter dans vos colonies en Amérique, pour les faire gémir pendant toute leur vie dans vos champs. C'est pour ces victimes, pour vos frères que je plaide.
Nous venons d'entendre la lecture d'un mémoire en faveur des gens de couleur par l'abbé Grégoire. Nous étions en décembre 1789, la révolution venait juste de commencer. Bonjour Aurélia Michel.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en histoire des Amériques noires à l'Université Paris-Cité. Vous êtes l'autrice d'Un monde en nègre et blanc, enquête historique sur l'ordre racial. Dites-nous, 1789, l'abbé Grégoire, avec ces mots qui portent, hein, nous l'entendons bien, fait-il preuve d'exception dans le discours? Ou pour le dire autrement, qu'en est-il du racisme à ce moment-là?
Alors, les années qui précèdent la Révolution, ce sont des années d'un débat très intense à propos de l'esclavage et à propos surtout de la traite. Et, disons, de manière générale, un débat qui met en cause le système colonial esclavagiste qui, à ce moment-là, est à son apogée, on pourrait dire, en tout cas pour la France, rapporte des profits considérables et, en même temps, à ce moment-là, suscite des critiques, des controverses très importantes. Donc c'est dans ce contexte qu'il intervient. Il n'est pas le seul, mais c'est un des plus... qui porte le discours le plus important, qui est le plus engagé, sans doute. Il est notamment membre de la récente Société des Amis des Noirs. Il s'est constitué en 1788 hein, pour abolir la traite esclavagiste. Et puis, il s'insère là dans une discussion qui a pris un tournant, je dirais, un peu radical, hein, en parlant de l'humanité questionner des Africains qui seraient utilisés pour justifier leur mise en esclavage, la façon dont se pose ce débat sur l'humanité des Africains, je dirais, a des antécédents, mais devient très important dans ces années 80.
Avec ici l'esclavage, et je le disais, c'est un phénomène très ancien, on sait bien, il y a des esclaves dans l'Antiquité. Le racisme, et c'est peut-être important de sans cesse le rappeler, est une construction, c'est quelque chose qui évolue, ce n'est pas quelque chose d'inné, de naturel, d'intemporel, où il y aurait une hiérarchie selon les individus.
Absolument. Alors, il y a plein de façons de définir, disons, la race, le racisme. On va peut-être rentrer petit à petit dans ces questions. Mais ce qu'on peut dire, pour commencer, c'est que, de toute façon, partout où il y a empire, il y a cette question qui se pose d'incorporer les populations conquises, notamment leurs élites, hein, mais pas seulement, l'ensemble des populations, et donc un questionnement sur l'identité, le devenir hein, de ces populations dans cette nouvelle domination gouvernement politique. Alors, a fortiori, dans les empires européens qui se sont développés à partir du XVe siècle, qui sont, alors, on pourrait utiliser ce terme de colonial, hein, qui peut-être précise un peu ce que sont ces empires européens, qui s'appuient en grande partie sur l'esclavage et qui fonctionnent avec des modes de gouvernement qui vont en fait maintenir des territoires, des sociétés, des populations, des individus en dehors de la société, hein, tout en les utilisant et en les possédant. Donc ce dispositif assez particulier d'empire, très certainement, a besoin d'être nourri, d'être justifié au fur et à mesure qu'il pose des contradictions majeures à la société, aux sociétés européennes.
Et cette contradiction, ce besoin en tout cas d'avoir des explications, correspond dans le temps qui nous intéresse à des avancées de la science. Et c'est en cela que c'est intéressant parce que, Aurélia Michel, vous venez de nous dire que l'esclavage est présent déjà, en tout cas en ce qui concerne les Européens, qui déporte des populations noires vers l'Amérique, allez, 15e, 16e siècle comme une évidence, 17e siècle, ça ne cesse d'augmenter, 18e siècle, c'est l'apogée, mais avec ici un regard différent. C'est-à-dire que au moment de déporter des populations d'Afrique au début du XVIIe siècle, je le dis simplement, on ne sait pas qui sont ces populations-là. Il y a la découverte du monde par les Européens. Il faut encore attendre pour qu'il y ait la volonté de la part de la science de classer, mais non pas pour hiérarchiser, au moins pour connaître. Il y a deux mouvements qui vont en fait en parallèle. Il y a l'esclavagisme d'un côté avec la traite, et puis de l'autre, les scientifiques qui, eux, essaient de comprendre le monde. Ces gens-là vont se rencontrer, ou en tout cas, leur production va se rencontrer.
Alors, d'autant plus se rencontrer que c'est souvent des gens qui appartiennent aux mêmes milieux sociaux, qui se connaissent, qui sont enfin, impliqués à la fois dans le commerce colonial et dans cette discussion savante. Donc, c'est très évidemment, il y a une porosité importante entre ces questions. Et je dirais qu'en effet, depuis le 15e, 16e siècle, l'expansion coloniale européenne pose cette question. Qu'est-ce qui se passe quand on déplace une population d'un continent à un autre, d'un climat à un autre? Alors ça peut être à la fois une population animale, végétale, humaine, bien sûr. Et ce sont des questions voilà, qui vont se poser, se reposer sans cesse au fur et à mesure que les Européens s'engagent dans ces déplacements massifs. Se pose aussi très rapidement la question de qu'est-ce qui se passe quand on mélange ces populations? Et là aussi, ça va donner lieu à des discussions savantes. Alors, par exemple, il faut se rappeler qu'au moment de la conquête des Indes, donc de l'Amérique au XVIe siècle par les Espagnols, la conquête donc commence en 1492 et en 1533, 40 ans plus tard, on pose la question à Mexico du problème des fils d'Espagnols. Fils d'Espagnols nés de mères autochtones, donc, et qui ne sont pas pris en charge par leur père, et qu'il faut que la couronne s'en occupe. 15 ans plus tard, 1549, ce même terme de fils d'Espagnol, il est toujours l'objet d'une cédule du gouvernement de Mexico, qui cette fois les nomme métis et mulâtres. Donc ils ont en quelque sorte, en 15 ans, perdu la filiation paternelle espagnole qui leur donnait leur identité, et ils sont désignés comme un nouveau problème de gouvernement, et avec ce terme de métissage qui est aussi le synonyme de mésalliance. Et c'est bien ce terme de métis qui fait l'objet par la suite d'une discussion qui va aussi concerner l'élevage, l'agriculture, etc.
Ici, je renvoie à l'émission du cours de l'histoire « Comment le monde ibérique a-t-il inventé la pureté de sang ?» à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France, parce que cette histoire qui nous intéresse, celle de la construction du racisme, c'est une histoire qui nécessite un regard sur le temps long. J'entends bien ici Aurélia Michel, et vous l'évoquez de manière très nette, il y a la volonté de saisir ce qui se passe dans le monde du vivant, pour le dire simplement, le monde végétal, le monde animal, et puis les humains qui peuvent correspondre au monde animal, avec un regard porté sur la couleur. Je reprends le titre de votre ouvrage, « Un monde en nègre et blanc ». Quand vous parlez de métissage, cela signifie que le lignage est moins important que la couleur de la peau, avec une variation de teinte, parce qu'il y a la personne noire, et puis après, il y a le métis, et puis après, il y a les blancs.
Alors, cette attention à la couleur, ou plutôt cette signification de la couleur, qui correspond donc à un statut social, une position sociale, c'est une construction, je dirais d'ailleurs, assez rapide, justement dans ce 16e, 17e siècle, au moment où la traite atlantique donc se déploie dans les empires européens, et en particulier vers les colonies d'Amérique. Alors, premièrement, c'est à partir de ce terme de noir qui est forgé en fait, qui est utilisé par les Portugais dès le 15e siècle pour désigner les captifs africains qu'ils achètent donc sur les comptoirs, sur le littoral africain, et qu'ils vendent notamment en Europe, mais aussi à partir du XVIe siècle aux Indes, donc dans le continent américain, dans leur propre empire et dans l'empire espagnol, et que dans ce contexte, aux Amériques, le terme de noir, en portugais, en espagnol, en français, hein, c'est ça le sens de ce mot nègre, c'est la traduction littérale du mot portugais en français, c'est un synonyme d'esclave. Hein, puisque à partir du moment où la couronne espagnole réussit à interdire définitivement l'esclavage des autochtones, au fur et à mesure du XVIe siècle, eh bien, les esclaves aux Amériques sont des Africains ou des descendants d'Africains. Et donc, il y a un phénomène de pratiquement cognitif, hein, qui associe dans cette société le mot, le terme de noir, le terme d'esclave et le terme d'Africain.
C'est fascinant hein, de voir ces glissements qui vont en parallèle aboutir à la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une domination, et puis dès lors le dominé eh bien, peut être réduit en esclavage. Il y a aussi du commerce, hein, dans cette histoire-là on a besoin de main-d'œuvre, et là il y en a. Il y a une histoire de la langue aussi, où associer un mot noir avec un statut esclave fait que tous les noirs deviennent esclaves, c'est l'essentialisation de la chose. Et puis dans le même temps, nous l'avons dit, les scientifiques font leur boulot de scientifiques. C'est le cas de Carl von Linné.
Linné a classé les plantes d'après des caractères arbitraires, exemple, nombre et disposition des étamines. Sa classification est un système artificiel, comme ceux de ses prédécesseurs. Et d'ailleurs, Linné est un esprit d'affinité scolastique. Il a subi profondément l'influence d'Aristote et de ses Alpins, et ses idées générales n'ont pas une solidité ni une valeur novatrice considérable. Mais c'est un esprit remarquablement méthodique, s'attachant à retrouver un ordre naturel existant a priori, et aussi à distinguer verbalement les plantes de façon simple et sûre. Il a su réaliser ce desideratum par un procédé ayant une valeur pratique inappréciable, la nomenclature binaire. Chaque espèce est désignée par deux termes. Le premier est commun à toutes les espèces voisines et constituant un genre, c'est le nom générique. Le second est propre à chaque espèce, il n'a d'ailleurs en lui-même aucune signification particulière, c'est comme une étiquette arbitraire. Il désigne l'espèce sans viser à la caractériser, comme cela avait été la préoccupation des prédécesseurs de Linné. Ce souci les avait amenés à désigner les diverses espèces par des formules longues et compliquées, défiant la mémoire.
Dans l'émission Heure de culture française en 1967, le médiéviste Ferdinand Loth jette un petit coup d'œil sur ce qui se passe au XVIIIe siècle quand il évoque Linné. Linné, c'est un grand nom de la science et nous l'entendons ici, Linné classe. Il classe les choses, il classe alors le vivant, les végétaux, il classe les animaux et dès lors, le classement des humains arrive très vite. Dites-nous, Aurélien Michel, y a-t-il du racisme là-dedans ? Comprenez-moi bien, parce que nous savons que le mot est tellement compliqué à manier. Nous sommes au XVIIIe siècle. Cette notion de race est difficile à manier. Il ne faudrait pas appliquer la définition du mot racisme d'aujourd'hui à ce XVIIIe siècle. Linné classe les choses.
Oui, alors évidemment, comme on l'a dit au début, ce classement, il n'est pas non plus anodin. Hein. Linné, il appartient aussi à cette élite européenne qui bénéficie de ce commerce, hein, qui bénéficie de cette économie. Donc, on ne peut pas non plus imaginer que ces classements sont innocents, disons, et notamment qu'ils soient décalés par rapport aux questions qui se posent. Or, depuis le XVIIe siècle, et en particulier depuis la deuxième moitié du XVIIe siècle, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'ampleur de la traite atlantique et le décollage, en fait, de cette économie de plantation qui va être menée par de nouvelles nations, en l'occurrence les nations d'Europe de l'Ouest, du Nord, évidemment la France, le Royaume-Uni, etc., l'Angleterre. Et donc, ce déploiement de la traite, il va effectivement poser de nouvelles questions. Hein, et cette classification de l'humanité, répond, entre guillemets, aux questions qui se posent dans le déploiement de l'empire colonial. Alors, on trouve, dès la fin du XVIIe siècle, des écrits qui vont spéculer sur des entités qui seraient les Noirs d'un côté, les Blancs de l'autre, intégrer de nouvelles groupes humains, hein, les jaunes, enfin, même si le terme, je pense, n'est pas encore utilisé à l'époque, mais en tout cas, ces classements, ils sont le résultat de questions, hein, qui sont posées par l'ordre économique, mais aussi pour le gouvernement de ces empires, de ces populations, et qui, en fait, sont des interprétations aussi des formes du bon gouvernement et vont être aussi utilisées en tant que telles.
Oui, parce que dire qu'il y a des Noirs en Afrique, dire qu'il y a des populations avec un train particulier en Asie, etc., en soi, c'est de la constatation, mais dès lors, commencer à généraliser l'ensemble, essentialiser l'ensemble, et surtout accorder à chaque individu des caractères particuliers, pourquoi pas une hiérarchie, dès lors nous touchons au racisme. Pour Linné, c'est vrai qu'il y a des Asiaticus, des Européaus, des Americanus, et là il a ces groupes, sauf qu'il leur accole en fait des traits de caractère qui feraient notamment des Noirs, des esclaves par nature.
En fait, dans cette idée de classement des Africains, par exemple, Africains en particulier, par leur couleur, donc noir, ce qui n'est pas le cas de tous les Africains, bien sûr. Évidemment, on sent dans cette grille de lecture le contexte de la traite atlantique. Et un contexte, donc, au début du XVIIIe siècle, on est encore dans une configuration, je dirais, assez simpliste, où aux Amériques, les Blancs sont des... Enfin, les Européens sont des Blancs, plutôt, donc les colons, les libres, et les esclaves ou descendants d'esclaves sont des Africains, donc des Noirs. Donc, la lecture, en tout cas, depuis l'Europe, de ce point de vue-là, est assez simple. Hein. Il y a une coïncidence, je dirais, entre des grands groupes distingués par leur couleur et des statuts de servitude ou de liberté ou de privilège.
Ce qui signifie, Aurélia Michel, que les Européens, si on regarde ce cas-là, sachant que l'esclavage se développe dans d'autres civilisations, ça nous le savons, mais que les Européens ne sont pas racistes et cela leur permet de faire de l'esclavage, je le dis en simplifiant les choses, hein, mais plutôt que l'esclavage conduit à développer des sentiments qui existent déjà de supériorité des uns des autres, mais qui jusqu'alors ne sont pas théorisés de manière aussi précise qu'à partir du XVIIe, XVIIIe siècle.
Tout à fait. L'esclavage, la traite atlantique, elle commence par une série d'opportunités économiques. Hein. Ce sont des filières esclavagistes existantes en Afrique, ce sont des filières qui sont développées par les Portugais et qui répondent exactement, précisément, à cette économie de plantation qui repose donc sur une main-d'œuvre esclave. Et avec le succès de ce modèle économique, on pourrait dire, il y a une grande violence aussi qui se déploie, hein, une grande violence envers ces populations déplacées, mises au travail, dans des conditions tout à fait déshumanisantes. Et c'est aussi cette violence qui, je dirais, entache, hein, crée un stigmate, est associée en fait, hein, à ces Africains qu'on appelle noirs et qui donc vont se généraliser. C'est vrai qu'on le voit dès le début du XVIIIe siècle, une généralisation du terme noir, non plus seulement pour les esclaves ou descendants d'esclaves aux Amériques, mais pour l'ensemble des populations africaines, puisque l'Afrique devient le pays des Noirs.
L'Afrique devient le pays des Noirs, puisque les Noirs sont synonymes d'esclaves, l'Afrique est le vivier pour l'esclavage. La violence que vous évoquez, Aurélia Michel, apparaît également dans les mots, et ces mots, nous les retrouvons dans le dictionnaire, notamment celui de Trévoux, 1732.
Nègre, nom propre de peuple, habitant, originaire de la Nigritie. Le nom de nègre n'est pas aujourd'hui synonyme d'éthiopien, comme il le pourrait être en parlant de l'Antiquité. L'Éthiopie ne s'étend pas autant que la Nigritie. Les nègres vendent aux Espagnols, aux Portugais et aux Hollandais, non seulement ceux de leurs voisins qu'ils peuvent attraper, mais quelquefois leurs propres femmes et leurs enfants. Ils sont noirs, mais davantage vers le midi du Niger que vers le nord. Ils passent pour robustes, mais ignorants, lâches et paresseux. La plupart suivent le mahométisme, les autres sont païens. Il y en a même qui n'ont presque aucun sentiment de religion. Au Pérou, Il est expressément défendu aux Noirs et aux Négresses d'avoir aucune communication personnelle avec les Indiens et les Indiennes, sous peine, au mal, d'être mutilé des parties naturelles et aux Négresses d'être rigoureusement fustigé.
La définition du mot nègre dans le dictionnaire de Trévoux 1732, où là nous avons donc issu du classement des populations identifiées selon des territoires. Les Africains sont noirs et nous l'avons entendu, ils sont lâches, ignorants, paresseux, c'est-à-dire que dès lors, l'argument est tout trouvé. Et le dictionnaire de Trévoux, c'est un ouvrage qu'on achète assez facilement. Il faut un peu d'argent, mais enfin, on peut l'avoir. C'est-à-dire que quelqu'un qui est négrier, qui se dit, bah, tiens, quel est mon métier ? Je prends le dictionnaire de Trévoux et je trouve en fait l'argument justificatif sur ce que je suis en train de faire.
Oui, tout à fait. Ça s'inscrit dans une série de textes, enfin de dictionnaires, mais aussi on pourrait dire aujourd'hui de manuels, qui sont tout autant destinés aux armateurs, disons au secteur économique, marchand, hein, un dictionnaire de commerce, que un ensemble de connaissances de type encyclopédique sur la langue, l'histoire naturelle, etc. Et c'est là qu'on voit la confusion, parce qu'ici on a affaire clairement à un argument qui s'inscrit dans la justification de l'esclavage des Africains, de la traite atlantique, dans un moment où justement la violence est déjà avérée, est déjà une expérience, et donc suscite, d'ailleurs l'esclavage suscite dès le départ, hein, des contestations, des critiques. Et il y a un embarras clairement de se lancer dans ce commerce extrêmement violent. Et cet embarras, il suscite des justifications dont on voit très bien. Alors là, on peut effectivement parler de racisme, puisque l'enjeu de cette définition, c'est quand même d'établir la pertinence et la justification de l'esclavage et de la traite. À tel point, je dirais que... Donc déjà, le premier point que vous soulignez, c'est effectivement la généralisation de ce terme de noir à l'ensemble de l'Afrique, réserve à esclave, finalement c'est ça la signification. La justification de l'esclavage par le fait que les Africains procèdent eux-mêmes à la traite esclavagiste, ça c'est le grand argument. Et puis ensuite, une série d'arguments sur le comportement, les mœurs, la nature supposée de ces populations, qui par leur comportement, n'auraient pas, disons, le même degré de civilisation, le même degré d'élaboration qui serait propre aux civilisations européennes chrétiennes. Alors, ça va assez loin, puisque, en fait, cette justification de l'esclavage, une façon de mettre de côté toute une population, des millions d'individus, puisqu'on parle de centaines de milliers déjà à cette époque, en dehors de la société, en dehors de, alors on pourrait dire à ce moment-là, de l'humanité, puisque c'est ça qui était en train de se constituer dans la discussion savante, hein, c'est une réflexion sur l'humanité, eh bien d'extraire, en tout cas on ne peut pas complètement les extraire, mais au moins de les mettre de côté. Et jusqu'au point où on voit à ce moment-là un succès d'un certain nombre de théories qu'on va appeler polygénistes, où... on imagine que, contre le discours, je dirais, canon de l'unicité de l'humanité, proposé par la Genèse, de récit biblique, eh bien, on imagine qu'il y aurait plusieurs espèces humaines, hein, et que donc ce serait une manière de penser les Africains, source de cette traite esclavagiste, comme différents, hein, séparés de l'humanité chrétienne.
Vous voulez dire qu'au moment où les scientifiques, nous avons cité Linné, nous pourrions citer Buffon, sont en train de classer les races, les espèces, etc., il y a l'idée d'appliquer ce qui concerne l'animal à l'humain, tout comme ces gens-là connaissaient si bien les chevaux, connaissaient si bien les chiens, et donc détaillaient comme ça les espèces différentes, ben on se dit, bah tiens, pour l'homme c'est pareil, et donc il existe plusieurs type, alors on va pas dire d'humains, mais ils sont proches de nous, mais ils ne sont pas comme nous. C'est-à-dire réduire l'autre à l'animalité. Mais à partir de là, tout est possible. Tout est possible pour l'esclavage, tout est possible aussi pour la violence, parce qu'on va se comporter envers ces gens-là comme on se comporte comme un animal qui n'obéit pas alors qu'on veut le dresser et le dompter.
Oui, alors sans aller forcément jusqu'à l'animalisation, qui ça c'est un procédé qu'on retrouve dans l'expérience des sociétés esclavagistes, hein, où il y a vraiment ce type de violence, la façon de classer peut être, enfin, distinguer des espèces humaines au sein d'une humanité globale est une, simplement les termes de la discussion sont rendus possibles par cette question posée par la traite, posée par l'esclavage, posée par le métissage et toutes les conséquences de l'empire colonial. Ça ne veut pas forcément dire que les plus racistes, si on prend par exemple les verbatims de certains de ce qu'on vient d'entendre, y en a plein des comme ça, ça ne veut pas dire que les plus racistes sont forcément les polygénistes ou que les monogénistes qui s'y opposent, qui s'opposent à ce classement, eh bien, ne sont pas pour autant des fervents défenseurs de l'esclavage ou de la traite. Mais c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que les termes de la discussion hein, qui portent sur le classement, précisément, la façon de classer, la fonction qu'on accorde à ces différentes catégories, par exemple, le fait que ces catégories soient fixées, hein, soient définitives, ou qu'au contraire, le classement serve à mettre en évidence une évolution, une transformation de ces catégories, de passage à une autre. Voilà, ça, ce sont des débats au sein des discussions savantes, au sein de ces élites savantes, qui portent sur le classement, mais qui ont évidemment comme arrière-fond les questions posées par l'Empire.
Avec ici des débats, tant de débats, Aurélien Michel, quand vous travaillez sur un monde en agrès blanc, vous disposez de documentation intense, des arguments, alors des deux côtés, j'ai envie de dire, mais avec toutes les subtilités possibles, et ces arguments-là, nous les retrouvons également chez les philosophes, Montesquieu de l'Esprit des Lois, 1748, qui justement s'interroge sur les arguments en faveur de l'esclavage.
Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais. Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique pour s'en servir à défricher tant de terres. Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. Ceux dont il s'agit sont noirs, depuis les pieds jusqu'à la tête. Ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre. On ne peut se mettre dans l'idée que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. Il est si naturel de penser que c'est la couleur qui constitue l'essence de l'humanité, que les peuples d'Asie, qui font des eunuques, privent toujours les noirs du rapport qu'ils ont avec nous d'une façon plus marquée. On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux, qui, chez les Égyptiens, les meilleurs philosophes du monde, étaient d'une si grande conséquence qu'ils faisaient mourir tous les hommes roux qui leur tombaient entre les mains. Une preuve que les nègres n'ont pas le sens commun, c'est qu'ils font plus de cas d'un collier de verre que de l'or, qui, chez les nations policées, est d'une si grande conséquence. Mais il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes, parce que si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. De petits esprits exagèrent trop l'injustice que l'on fait aux Africains. Car si elle était telle qu'ils le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d'Europe qui font entre eux tant de conventions inutiles, d'en faire une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié ?
Dans l'Esprit des Lois en 1748, Montesquieu se joue des arguments portés par ceux qui sont en faveur de l'esclavage. C'est-à-dire que déjà au milieu du XVIIIe siècle, Aurélien Michel, tous ces arguments sont identifiés avec une temporalité qui d'ailleurs nous fait vraiment réfléchir parce qu'on entend ici dans cet extrait « Oh, c'est naturel, donc c'est entré dans les esprits ». Or, l'historienne que vous êtes, et vous nous l'avez expliqué, montre que le phénomène n'est pas si ancien, c'est un phénomène qui couvre quelques générations, allez, un siècle et demi, avec une évolution. Mais là, au XVIIIe siècle, ça, c'est assez naturel et on a des arguments qui sont étayés, hein, ça fonctionne. Même si tout est faux, l'argumentation est là.
Alors, ce qu'on voit très bien dans cette mise en ironie, qui est une dénonciation, c'est justement les étapes de la justification. Donc, ça revient à la question de tout à l'heure, les Européens étaient-ils racistes ? On voit très bien ici, c'est ce que dévoile parfaitement Montesquieu, comment l'argumentaire est construit a posteriori. Il y a une conséquence de la traite atlantique et du recours massif à l'esclavage qui sont ces discours de justification et qui sont donc aussi le signe d'un malaise, je dirais, d'une tension. Et c'est ce qui se passe au début, dans cette première moitié du XVIIIe, c'est que la traite atlantique et la production esclavagiste, notamment aux Amériques, prend une ampleur considérable. Prend une ampleur considérable dans un moment où aussi on est dans des réflexions, dans des réflexions sur le politique, sur le religieux, etc., sur la raison. C'est ce qu'on appelle globalement les Lumières. Et que donc l'intensité de ce commerce, et je dirais aussi les profits qu'il engendre, mettent en tension cette société européenne nouvelle commence à se réfléchir, justement, on disait, avec cette idée d'humanité, cette perspective de justice, de raison pour le gouvernement. On se dirige vers des réflexions qui vont se matérialiser politiquement à la fin du XVIIIe par les grandes révolutions. Et c'est bien cette tension entre explosion, succès du commerce lié à l'esclavage, qui repose sur l'esclavage, et la mise en place d'un horizon plus ou moins égalitaire.
Et puis on voit le temps qui passe aussi, les informations qui arrivent, ce qu'on ne sait pas, et puis désormais ce qu'on sait, et puis on en doute, et puis il y a d'autres informations qui arrivent et on en sait un peu plus. Ce qui fait que quand nous nous trouvons, Aurélien Michel, au XVIIIe siècle en Europe, il y a un regard bien différent porté sur ce qu'est l'esclavage par rapport à ce qu'il y avait un siècle auparavant. Un siècle auparavant, les choses se construisent, se mettent en place, se développent. Au XVIIIe siècle, c'est l'ensemble de la société qui est concernée par l'esclavage. On cite souvent les grands ports, et nous les connaissons, ces ports négriers en France, mais en réalité, c'est toute la société qui est concernée. Il y a des Noirs en Europe, il y a des Noirs en France, il y a des aliments qui arrivent qu'on ne connaissait pas avant. Donc ce n'est pas quelque chose en marge dans la société ou en tout cas quelque chose de lointain.
Absolument. C'est tout à fait présent et quotidien. Ça concerne en fait et ça interpelle un grand nombre de gens en Europe, y compris dans les villages les plus reculés, qui peuvent être concernés indirectement par cette économie ou avoir eu connaissance. Et puis c'est aussi la porosité existante entre les lieux de l'esclavage, c'est-à-dire les territoires coloniaux, les îles à sucre, aux Amériques notamment, mais aussi dans l'océan Indien, et puis les élites en métropole. Il y a une circulation permanente de ces élites, d'ailleurs souvent avec leurs domestiques esclaves, qui séjournent avec eux en métropole, qui font l'aller-retour. C'est la source d'ailleurs d'une grande partie de cette population noire en France, par exemple, à la fin du XVIIIe. Et dans les colonies, la société coloniale, alors là, je ne dirais pas que c'est un savoir, mais en tout cas, c'est une expérience qui, elle, pour le coup, est vraiment une source de racisme, puisque ces élites, ces planteurs, mais aussi les gérants, les contremaîtres, tout le système qui met au travail, qui met en œuvre cette production fondée sur l'esclavage, est confronté à cette violence, à cette expérience de la violence, et aussi aux très nombreuses contradictions qu'elle soulève immédiatement. Et notamment, cette simplification qui avait été pensée par exemple, par le colbertisme, au moment de la mise en place de l'Empire de Louis XIV, qui était très simple. On va envoyer des colons européens dans les îles, on va transporter des esclaves venant d'Afrique, et on va former l'économie de plantation. Or, dans la société coloniale, cette situation, elle est très rapidement débordée par les faits. Et notamment, une chose qui se passe dès les premières générations, c'est la naissance d'enfants qui sont à la fois d'ascendance européenne et africaine. Et dès ces premières générations d'enfants qu'on appelle aujourd'hui métis, ça pose un problème à ce système esclavagiste simpliste, fondé sur les noirs et les blancs, qui en fait ne correspond pas à la réalité de la société. Et je dirais qu'il y a toute une partie de la société des planteurs qui va, entre guillemets, lutter pour maintenir cet ordre simpliste racial, hein, entre les Noirs et les Blancs, esclaves et propriétaires, esclaves et maîtres. Et en réalité, ce système est sans cesse débordé par la réalité. Et la façon de chercher à maintenir, à assigner les descendants d'Africains à une place d'esclave, à une situation d'esclave, ça, c'est la plus grande source du racisme qui ensuite voyage en métropole, circule en Europe et nourrit toutes ces théories de classement de l'humanité qui servent à justifier le maintien de l'esclavage.
Classement de l'humanité, hiérarchie entre ces différentes humanités et qui touche, Aurélien Michel, vous l'avez dit, tout le monde, au sens où cette lecture du monde en nègre et blanc, et je reprends le titre de votre ouvrage, c'est pas simplement dans les colonies, c'est pas simplement sur le littoral ou dans les grands ports, c'est même jusque dans les villages, partout. Et c'est la force aussi de ces discours-là et l'horreur de ces discours-là avec des populations qui, évidemment, ne sont pas candides.
En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n'ayant plus que la moitié de son habit, c'est-à-dire un caleçon de toile bleue. Il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. « Eh, mon Dieu !» lui dit Candide en hollandais. « Que fais-tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te vois ?»« J'attends mon maître, Monsieur Van der Dendur, le fameux négociant. » répondit le nègre. Est-ce monsieur Van der Dendur, dit Candide, qui t'a traité ainsi? Oui, monsieur, dit le nègre. C'est l'usage. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement deux fois l'année. Quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvé dans ces deux cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Voltaire, Candide.
C'est en 1759 que Voltaire publie Candide. Voltaire avec une posture ambiguë, sachant que lui-même a pu investir, mais comme beaucoup, beaucoup de ses contemporains, dans des sociétés liées à des navires négriers, parce que bah, c'est ça qui rapporte et il faut investir ici. Aurélien Michel, quand on entend Candide, la dénonciation est évidente, hein, la dénonciation de la violence. Après, en savoir la portée, c'est tout autre chose, mais ça permet de réfléchir à cette notion de couleur et de l'inverse aussi. C'est-à-dire, vous évoquez la construction de ce monde en noir, nègre, mais en blanc aussi. Est-ce qu'on peut dire que c'est au même moment que se construit la couleur blanche, sachant que nous ne sommes pas blancs, mais globalement plutôt rosés en Europe?
Ah oui, tout à fait. Le mot blanc, le terme de blanc, pour désigner, qui est en fait associé à la condition de libre, c'est ce qui apparaît dans le monde colonial, donc je dirais au cours du XVIIe, à la fin du XVIIe, c'est assez établi, c'est une nouvelle catégorie, un vocabulaire qui est utilisé par les sociétés, dans les sociétés coloniales d'abord, et qui va effectivement être le contrepoint de cette condition de noir qui est associée à la condition esclave. Donc, on va voir se développer ce mot pour définir des groupes sociaux qui s'auto-définissent avec ce terme de blanc, pour se distinguer, alors, pas tant des esclaves en réalité, que justement de tous ces individus, de toutes ces populations qui rendent cette frontière entre noir et blanc très grise. Voilà, pour le dire en quelques mots. Donc, je parlais des enfants métis qui sont très vite renvoyé à la condition esclave pour éviter justement de ces sorties de l'esclavage par la naissance ou par le concubinage. De fait, de nombreux de ces enfants métis vont être affranchis par leur père avec souvent leur mère et donc constituer une population libre d'origine africaine présente dans ces colonies, parfois qui héritent de leur père, constituent eux-mêmes des plantations, achètent des esclaves, etc. Donc on est dans une société assez complexe de ce point de vue qui pourrait se résumer entre libre et esclave comme le propose la codification de Colbert, le code noir, mais qui en réalité est perçu par en tout cas le groupe des colons, comme instable, menaçant, et le fait que des libres, qu'ils appellent à ce moment-là de couleur, puissent intégrer la société des maîtres, des libres, des Européens, pose problème, leur pose problème. Et c'est dans cette distinction que le terme de blanc apparaît comme non seulement pour désigner des libres, mais pour se constituer aussi pratiquement en groupe politique. C'est ce qui va se passer au cours du XVIIIe siècle. Le groupe des Blancs, c'est la revendication que ces distinctions soient bien existantes, établies, que les privilèges soient maintenus pour ces populations dites blanches et qu'il y ait toute une série de marqueurs qui empêchent les gens d'origine africaine, qui auraient une ascendance africaine supposée, par leur couleur justement, d'accéder au même statut, aux mêmes conditions que les libres propriétaires.
Avec la couleur qui est au cœur de la réflexion, on l'entend bien, mais ça, ce n'est pas une vision de l'esprit, parce que le vocabulaire même le dit. Nègre, c'est bien dire quelque chose. Et d'ailleurs, pourquoi le mot noir ne s'est pas imposé en français? Pourquoi nous sommes passés par le nègre, c'est-à-dire repris du portugais, de l'espagnol? C'est là où l'association de la couleur et de l'esclavage a pu se faire, et donc dès lors, on a conservé le mot?
Alors, les deux mots étaient utilisés. Puisque noir, c'est la traduction du mot portugais negro. Le fait de continuer à utiliser, c'est le cas aussi en anglais, par exemple. En espagnol, ça ne se voit pas parce que c'est le même terme. Mais le fait de continuer à utiliser cette transcription littérale, en fait, du portugais negro, en français, de franciser le terme negro portugais, c'est vraiment de marquer cette association, signification de la condition esclave. C'est ce qu'on retrouve dans le dictionnaire qu'on a entendu tout à l'heure. C'est à travers ce terme, c'est non seulement la traduction de la couleur noire, qui est aussi utilisée à ce moment-là, mais c'est de spécifier que quand on parle de cette couleur noire, on parle bien des personnes vendues en esclavage sur le continent africain.
Et ça, c'est conscient. Au XVIIIe siècle, les Européens saisissent tout de suite au moment de dire le mot nègre que c'est lié à l'esclavage. Et cette histoire-là, c'est une histoire qui traverse les siècles, évidemment, parce que l'esclavage a beau être aboli, nous le savons, ce marqueur-là demeure, ne serait-ce que par l'utilisation des mots. Et dès lors, les penseurs, les artistes, les génies s'en saisissent. Aimé Césaire.
C'était un nègre dégingandé sans rythme ni mesure. Un nègre dont les yeux roulaient une lassitude sanguinolente. Un nègre sans pudeur, et ses orteils ricanaient de façon assez puante au fond de la tanière entrebâillée de ses souliers. La misère, on ne pouvait pas dire, s'était donné un mal fou pour l'achever. Elle avait creusé l'orbite, l'avait fardé d'un fard de poussière et de châssis mêlés. Elle avait tendu l'espace vide entre l'accrochement solide des mâchoires et les pommettes d'une vieille joue d'Hécatie. Elle avait planté dessus les petits pieux luisants d'une barbe de plusieurs jours. Elle avait affolé le cœur, voûté le dos. Et l'ensemble faisait parfaitement un nègre hideux, un nègre grognon, un nègre mélancolique, un nègre affalé, ses mains réunies en prière sur un bâton noueux. Un nègre enseveli dans une vieille veste élimée. Un nègre comique ailé, et des femmes derrière moi ricanaient en le regardant. Il était comique ailé. Comique ailé pour sûr. J'arborais un grand sourire complice. Ma lâcheté retrouvée. Je salue les trois siècles qui soutiennent mes droits civiques et m'en sont minimisés. Mon héroïsme, quelle farce! Cette ville est à ma taille et mon âme est couchée, comme cette ville dans la crasse et dans la boue couchée.
Extrait du cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, texte de 1939, ici une adaptation, une représentation au Théâtre de la Ville à Paris en 2019. Aurélien Michel, il y a avec l'idée de nègre le fait qu'il n'est désormais plus possible de se sortir de ce statut-là. Et nous l'entendons bien, le métissage n'est pas non plus une solution, n'est pas une sortie, parce que nous restons associés à la couleur de peau. C'est-à-dire que le marqueur qui est vraiment implacable, c'est cette couleur. On ne peut pas s'en échapper. C'est un peu ce qu'on retrouve quand Aimé Césaire et d'autres s'emparent du thème négritude.
Oui, tout à fait. Alors là, on retrouve pour notre débat contemporain, la question du racisme, c'est-à-dire... au fond, tout ce qu'on essaye de mettre en évidence ici, c'est comment, c'est ce qu'il reste de ces préjugés, de cette construction, de cette organisation mentale de l'humanité, lorsque l'esclavage disparaît. Et au fond, les premiers pamphlets, les premiers écrits, les premières théorisations racistes, là on peut tout à fait utiliser ce terme, elles apparaissent à partir du moment où l'esclavage est questionné, est mis en cause. Et encore plus dans la perspective de son abolition. Et je dirais pratiquement, le maximum, c'est après l'abolition de l'esclavage. Hein, c'est le retour de bâton, c'est la réaction à la disparition de l'esclavage. Alors, par exemple, il y a un débat très important sur l'esclavage à partir de la guerre de 7 ans en Europe, donc qui se termine en 1763. Et donc, toutes les années 60 sont des années de débats très intenses hein, qui contestent à la fois la pertinence, enfin la moralité, je dirais, de l'esclavage. Bon, ça, c'est une critique ancienne, mais aussi sa pertinence économique, par exemple. Hein, c'est une discussion sur la liberté de commerce, sur la liberté du travail, etc. Bon, les physiocrates, Adam Smith... Bon, il y a toute une discussion qui du fait que la guerre de 7 ans a mis les puissances européennes en difficulté sur cette question de la traite, qui va être débattue. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir aussi les défenseurs de l'esclavage, et notamment de la part du milieu des planteurs. Alors, par exemple, je pense à un, mais il fait partie de l'Empire britannique, mais il est très important, c'est Edward Long, qui publie son Histoire de la Jamaïque en 1774, pardon, et qui, va argumenter sur la race noire, le fait qu'il faut la considérer comme séparée de la race blanche, etc., etc. Et au moment où ces débats sont les plus importants, c'est-à-dire que l'esclavage est sur la sellette, hein, c'est la défense de l'esclavage qui justifie ces théories les plus racistes, les plus violentes, les plus abjectes, et qui vont effectivement, l'idée, c'est de maintenir cet état, cette condition de noir, cette condition de nègre, au-delà hein, de toute juridiction, abolition, pas abolition, peu importe, ces noirs doivent travailler et être forcés au travail dans les plantations pour maintenir l'économie coloniale. Voilà à peu près l'argument qui circule. Et alors, plus particulièrement, après la première abolition de l'esclavage par la Révolution française, et tout le retour de bâton hein, qui s'est déroulé avec Napoléon Bonaparte et le rétablissement de l'esclavage en 1802.
Première abolition de l'esclavage pour la France, c'est 1794. Aurélien Michel, donc j'entends bien ici que dans la construction du racisme, l'abolition renforce le racisme. C'est un paradoxe sans nom ici, parce qu'on se dit bien qu'avec l'abbé Grégoire, avec tous ces mouvements-là, et puis avec tout simplement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, etc., etc., bah, ça y est, la question est réglée. En plus, l'esclavage est aboli en 1794. Mais vous nous dites que avec le rétablissement de l'esclavage en 1802, Napoléon Bonaparte, premier consul, là, ça y est, on a le retour de l'esclavage dans sa possibilité, parce qu'on maîtrise un peu moins les mers, mais enfin, peu importe. Et en tout cas, avec un discours qui est là authentiquement raciste et qui touche même les institutions. C'est-à-dire que l'État qui le portait, désormais, met la couleur dans sa réflexion sur la manière d'envisager ses colonies.
Tout à fait. Alors, 1789, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est la cause, la première cause du premier lobby, on pourrait dire raciste, mais disons esclavagiste, qui se constitue donc à Paris en 1789 pour contrer, empêcher l'application de ce texte de la Déclaration des droits de l'homme aux colonies. Et c'est ce qu'on appelle le club de Massiac, hein, qui réunit notamment des savants, ou des intellectuels, on pourrait dire, et ce fameux Moreau de Saint-Méry, Élie-Médéric Moreau de Saint-Méry, qui est l'auteur d'une classification, justement, de la population de Saint-Domingue, qui permet de regrouper, selon les généalogies supposées sur 7 générations, les différentes composantes. Il appelle ça des parties, hein, suivant qu'on est, qu'elles sont d'origine africaine, européenne, etc. Cette classification délirante qui est précisément un argument dans ce contexte d'après-abolition, 1794, puisqu'il va publier 2 ans plus tard, et qui fait partie de tous ces argumentaires qui renforcent l'idée d'une séparation ontologique, je dirais, entre la classe des esclaves et de leurs descendants, des affranchis et de leurs descendants, et la classe des Blancs. Et à tel point qu'on le retrouve effectivement, donc bien sûr, ce sont des arguments qui vont aller dans le sens de, qui vont pousser au rétablissement de l'esclavage donc par Napoléon en 1802, et aussi qui vont se traduire dans l'application du Code civil aux colonies. À partir de 1805, hein, il y a des décrets d'application du Code civil qui explicitement expriment cette distinction entre la classe des Blancs et celle des affranchis et de leurs descendants.
Arrêté colonial du 7 novembre 1805. Attention, on ne mélange pas les couleurs.
Arrêté du 16 Brumaire en 14. Les lois du Code civil relatives au mariage, à l'adoption, à la reconnaissance des enfants naturels, aux droits des enfants dans la succession de leurs pères et mères, aux libéralités faites par testament ou donation, aux tutelles officieuses ou datives, ne seront exécutées dans la colonie que des Blancs aux Blancs entre eux, et des affranchis ou des descendants d'affranchis entre eux, sans que par aucune voie directe ou indirecte, aucune des dites dispositions puisse avoir lieu d'une classe à l'autre. Considérant que de tout temps, on a connu dans les colonies la distinction des couleurs, qu'elle est indispensable dans les pays d'esclaves et qu'il est nécessaire d'y maintenir la ligne de démarcation qui a toujours existé entre la classe blanche et celle de leurs affranchis ou de leurs descendants.
Considérant que de tout temps, on a connu dans les colonies la distinction des couleurs. Donc cet arrêté de 1805 est extrêmement clair. Aurélia Michel, ça y est, hein, la couleur est là, la mise en place est évidente. Nous sommes en 1805, l'esclavage vient d'être restauré, rétabli par Napoléon Bonaparte. 1848, c'est l'autre abolition, celle-là définitive. Est-ce qu'on a exactement, en écho à cet arrêté qu'on vient d'entendre, des réflexions qui demeurent en fait? Est-ce que l'abolition de 1848 renforce elle aussi le racisme?
Alors, tout à fait. Et je dirais qu'à partir de la première abolition jusqu'à l'abolition définitive en 1848, la France est traversée par ces débats, hein, qui, autour de l'esclavage, rétablissement, maintien, développement d'autres formes de colonisation, d'autres formes économiques. Donc, ce sont des débats essentiels. Et petit à petit, les élites, ou disons le capitalisme français, va se réorienter vers d'autres formes de colonisation qui n'utilisent pas l'esclavage, ou en tout cas de manière simplement déguisée, quand elles le font, et qui vont en tout cas revendiquer des formes de production coloniale, mais sans esclavage. Et donc, toutes ces discussions ont lieu et sont absolument concomitantes, articulées au débat scientifique, hein, qui est en résonance, en fait, hein, comme on l'a vu aussi pour le XVIIIe siècle. Donc, par exemple, les années 1830, qui voient une accélération dans les politiques abolitionnistes, enfin, dans le courant abolitionniste, qu'on voit petit à petit, donc, on se dirige sûrement et fermement vers l'abolition, même si ça traîne de manière incroyablement longue jusqu'en 1848. On sait dès les années 1830 que l'esclavage va disparaître. La question, c'est comment, à quel prix, à quelles conditions pour les planteurs, quelle indemnisation, etc. Et donc, cette discussion-là sur les conditions de l'abolition, c'est celle-là qui suscite, qui fait écho aux discussions scientifiques qui sont portées, par exemple, par la Société ethnologique de Paris, qui est créée donc en 1839, et qui prend en charge, en fait, hein, ces débats pour savoir comment on va organiser le travail, comment on va organiser la production, la présence des Européens en Afrique, en fonction de ces réalités de race, qui est désormais un paradigme, une notion extrêmement bien établie, puisque le terme de race, je dirais à ce moment-là, qui est pratiquement un synonyme de peuple, de nation, etc. C'est une façon de lire les logiques, les dynamiques du monde, les dynamiques des sociétés et donc l'histoire.
Avec ce mot race, hein, ce mot qui est un mot ancien, mais un mot lié au lignage, des races royales, des choses comme ça, on sent qu'il a peu à peu évolué, ce qui fait quelqu'un au 19e siècle qui lit le moral, ce n'est plus du tout dans le même contexte. C'est-à-dire que désormais, la race est là et désigne un peuple et identifié par la couleur. On peut le dire un peu simplement comme ça.
Oui, alors, pour le terme de race, disons qu'il est ancien, et je dirais que bon, pour toutes les sociétés antérieures à ce 19e siècle européen ou ailleurs dans le monde, on est dans des sociétés qui sont quand même fondées sur des inégalités de naissance. Partout, il s'agit être bien né, que ces caractères de bonne naissance soient transmis par hérédité d'une génération à une autre, c'est aussi très courant. Vous connaissez l'histoire de la princesse au petit pois, voilà, il y en a plein partout, ou le Œdipe chez les bergers. Bon, la réalité de la nature de cette bonne naissance va finir par apparaître, etc. Donc ça, c'est très général. Par contre, ce qui caractérise le début de ce 19e siècle, c'est effectivement une vision du monde, des dynamiques des sociétés surtout, et donc des mouvements de ces sociétés, la façon dont elles doivent se comporter les unes avec les autres, et notamment dans le cadre des empires, que toute cette organisation nouvelle, cette nouvelle gouvernance, on pourrait dire, doit être fondée sur une rationalité, et que cette rationalité, c'est justement, elle se nourrit d'une connaissance sur ces populations, sur ces groupements, sur ces espèces, on pourrait dire, ces nations, c'est le mot aussi très important de l'époque, et ces nations, elles sont aussi déterminées par des critères de race.
Dans un monde blanc, un monde en nègre et blanc, Aurélia Michel, vous allez jusqu'aux années 1950, et on pourrait aller même au-delà, c'est-à-dire que tout ce que vous nous avez expliqué dans le cours de l'histoire structure une manière de voir le monde qui dure longtemps après l'abolition de l'esclavage. Mais quand je dis longtemps après, l'abolition de l'esclavage pour la France, c'est 1848, aux États-Unis, c'est 1865. Mais un siècle plus tard, et aujourd'hui encore, ces schémas-là sont présents, sans doute modifiés par rapport au contexte, bien sûr, mais toujours présents.
Oui, tout à fait. Et il ne faut pas considérer que l'abolition, c'est un point de bascule. Alors, évidemment que ça change beaucoup de choses, on est d'accord. Mais en réalité, le processus d'abolition, il est extrêmement long. On a parlé de la première abolition en 1994. La dernière abolition dans l'Empire français, c'est en 1905, qui concerne donc les territoires coloniaux. Et même après cette date, on trouve beaucoup d'utilisation, dans les faits, de recours à l'esclavage, notamment dans les armées coloniales. Donc, c'est bien plus long que le disent ces dates d'abolition. Et effectivement, c'est un discours qui va être un peu, qui va aller se loger, en arrière-fond, dans les inconscients, qui continue à organiser notre lecture du monde, notre appréhension des rapports sociaux, la signification des couleurs, des positions sociales. On va continuer à associer bien au-delà de ce qui est décrété dans les lois. Et par ailleurs, d'autant plus que c'est justifié par des réalités économiques, géopolitiques, qui, d'une certaine manière, prolongent ces inégalités construites dans les empires esclavagistes coloniaux de l'époque moderne.
Et tout cela s'ajoute à des arguments beaucoup plus anciens, des arguments bibliques, etc., qui font des Noirs un peuple destiné à être esclave. Mais on voit bien ici, par le regard que l'historienne porte sur ce phénomène, que nous avons une construction qui, et là, c'est fascinant, se déroule en quelques générations, en fait, la transformation complète de ce qui s'est passé autour du 18e siècle, pour le dire simplement, est sidérante. Merci vivement à vous, Aurélia Michel, d'être venue dans le cours de l'histoire, Un monde en nègre et blanc, enquête historique sur l'ordre racial, cet ordre impossible à tenir. Merci vivement à vous.
Merci.
Prochain épisode dans le cours de l'histoire, le racisme scientifique et médical, mais dans le contexte des nationalismes exacerbés, parce qu'il est toujours scientifique, on trouve toujours des arguments pour dire scientifique, en tout cas des pseudo-théories pour mieux dominer.
Il a fallu les crimes d'un régime qui s'inspirait des doctrines racistes pour que l'humanité prenne conscience de ce qu'est, de ce que représente cette philosophie. Et pourtant, depuis longtemps, elle existait.
Paul Rivet à l'UNESCO pour cette remise en cause du racisme en 1950 dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau à la technique Élise Leu, émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Sidonie Lebeau, Luce Mourant et Mayouen Guizhou. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.